Stéphane Brisé, bonjour. Donc, je vous rencontre dans le cadre de la sortie de votre film Hors Saison, qui sera en salle le 27 mars et qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir à la Mostra en septembre dernier. Alors, c'est un film que vous avez réalisé, mais coécrit avec Marie Drucker, quelqu'un que vous connaissiez quand même depuis octobre 2019, si j'ai bien vu, journaliste, productrice, que vous aviez déjà fait tourner comme comédienne dans Un Autre Monde. Qui a eu l'idée de Hors Saison? C'est vous, c'est elle qui a amené l'autre à la coécriture?
Non, c'est moi qui ai eu l'idée de ce film. Souvent, d'ailleurs, les films sont portés par le réalisateur, hein, qui de fait est scénariste et puis qui va s'adjoindre à un co-scénariste. Et Marie, je la connais depuis, même avant, peut-être 2000, je sais, peut-être 2019, peut-être même avant. Et je connaissais Marie à l'époque journaliste quand elle présentait le journal télévisé. Mais moi, j'ai fait connaissance de Marie quand elle avait arrêté cette profession et qu'elle était devenue productrice. Et en fait, c'est Marie productrice un jour qui a souhaité me rencontrer.
No School Production.
No School Production. et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Donc ça, c'était avant de la faire jouer dans En Guerre. C'est une rencontre assez rare où tout d'un coup, il y a un sentiment qu'on se connaît déjà avant. Des discussions où on se dit des choses dans une très très grande franchise, notamment sur les rapports hommes-femmes, sur le couple, sans se connaître. La première fois qu'on s'est vu, on s'est dit des choses incroyablement intimes, mais sans que ça soit déplacé ni avoir le sentiment de dire des choses inconvenantes, mais le sentiment qu'on pouvait se dire les choses sans être jugé par la personne en face, avec nos faiblesses d'hommes, ses faiblesses de femmes, nos faiblesses d'êtres humains. Et à la fin de cette conversation, je me souviens, je lui ai dit, écoute Marie, si un jour j'écris un film sur vraiment un couple, je te demanderai, parce que la manière dont tu regardes ça avec frontalité, sans essayer d'enrober ça dans du papier à chocolat, je trouve que moi, ça me plaît, ça me va, cette honnêteté-là, avec ce qu'on est. Alors, je sais que les frontières hommes-femmes ont tendance aussi à... Il y a une porosité qui est... Mais, en tout cas, moi, l'homme que je suis de 57 ans, construit dans un certain schéma, et elle, Marie, qui est plus jeune que moi, mais néanmoins construite aussi dans un schéma qui appartient certainement à une autre époque, en tout cas, où on est ce qu'on est, avec nos réflexes d'hommes et nos réflexes de femmes, notre rapport au monde, en rendre compte avec franchise, c'est quelque chose qui était à un moment, voilà, il y avait cette nécessité, après les films dits politiques, il y avait cette nécessité de revenir à des choses plus dans cette intimité là.
Alors, en parlant du film et des personnes qui vous entourent, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai appris que vous alliez tourner Hors Saison, je me suis dit, mais pourquoi ne va-t-il pas prendre Vincent, puisqu'il est quand même son un de ses acteurs fétiches. Et puis finalement, en voyant le film, voyant ce que vous en aviez fait, je me suis dit, mais non, il valait mieux. Parce que finalement, Guillaume joue du Canet quand même. Hein. Il, le rapport à au public et Vincent n'aurait sûrement pas été dans la même trajectoire que celle que vous aviez indiquée à Canet, non?
Ben, en fait, moi, je fais des films avec d'abord ce que je suis moi. Donc les questions qui traversent les personnages sont des questions qui me traversent moi. Et puis ensuite, je considère que je fais quand même toujours, quand je fais de la fiction, je fais un documentaire sur les acteurs. En fait, j'ai ça. Donc je ne fais pas avec autre chose que ce qu'ils sont. Donc je vais chercher des gens qui ont à voir avec ce qui est écrit. Et comme ce qui est écrit a à voir avec moi, ça veut dire que les gens que je vais filmer ont à voir avec moi. C'est-à-dire que quand j'ai fait des films avec Vincent, Vincent a à voir avec moi et j'ai à voir avec Vincent. Et ce qu'est Guillaume a à voir avec moi. Mais ce qu'est Alba Rohrwacher, sa partenaire féminine, a à voir avec moi. Il y a quelque chose d'une forme de rencontre comme ça, qui il y a une porosité entre Guillaume et moi en l'occurrence. Et qu'est-ce que je vais utiliser chez Guillaume en fait là? Il y a une part de sa tristesse. Ah, ça peut sembler surprenant, mais Guillaume en parle assez franchement dans des interviews. Il dit « je suis né triste ». Ah, c'est marrant parce que quand on voit Guillaume, on se dit c'est plutôt un mec drôle, c'est plutôt un mec qui est là, un peu rebondissant. Mais en fait, ce que je comprends à ce moment-là, c'est que Guillaume, il a mis en place un certain nombre de stratégies
pour se protéger.
Pour se protéger. Ouais, et ça qui m'intéresse. Ouais. C'est ce qu'on est, mais c'est surtout ce qu'on met en place pour ne pas trop montrer les zones d'ombre. Mmh. Et mon personnage est un personnage qui est à un moment de grands questionnements dans sa vie, très existentiel. Il se pose la question de savoir s'il est certainement avec la bonne personne à ce moment-là de sa vie. Est-ce qu'il a fait les bons choix? En tout cas.
Et justement à ce propos, on aborde ici un des thèmes qui est propre quand même à pas mal de comédiens de cinéma qui ont envie de monter sur scène. Ici, Mathieu veut jouer Ibsen. Est-ce que c'est une sorte d'obligation pour les comédiens de cinéma et Marie Drucker le dit très bien, celle qui joue sa femme, enfin qu'on entend, ce n'est pas dramatique si tu ne fais jamais de théâtre de ta vie.
Alors, avant de répondre complètement à la question, vous dites le sujet du film, c'était absolument pas un sujet du film. C'est un événement du film, c'est-à-dire que c'est pas un film sur les doutes d'un acteur. Il se trouve que j'ai trouvé intéressant qu'il soit acteur. On pourrait revenir sur ce choix de profession qui est un peu singulier, mais et donc cet acteur, alors c'est pas spoiler le film, c'est-à-dire qu'au début, en fait, il est dans un grand désarroi. En fait, c'est un acteur très connu de cinéma, donc même niveau de notoriété que Guillaume Canet. Et il a voulu monter sur scène, et en fait, à quelques semaines de la première, il s'est barré du projet. La peur, etc. Et donc, en fait, il se pose la question de savoir s'il a quand même bien fait, en fait. Et évidemment, ces questionnements-là, sa femme en a strictement rien à foutre. Elle n'est pas avec lui pour partager ce genre d'état d'âme. Mais lui, à ce moment-là de sa vie, il a créé une situation, parce que je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard, il a créé une situation qui lui permet de se questionner sur des choses bien plus profondes que de savoir si on doit monter sur scène ou pas sur scène. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs de cinéma qui certainement, pour ceux qui n'ont fait que du cinéma, peut-être peuvent se penser légitimes comme acteurs qu'à partir du moment où ils seront montés sur scène. Mais j'ai créé un événement un peu, c'est moins important qu'un mec au chômage quand même. Mais néanmoins, ça le plonge dans un grand questionnement. Alors pourquoi j'ai choisi d'en faire un acteur de ce personnage? Parce que il y a une forme d'allégorie là-dedans. Je pense que l'acteur, c'est un être qui me touche infiniment. Parce que je pense que l'acteur, c'est la parabole de notre condition d'être humain. Je trouve que l'acteur, c'est un être héroïque et totalement dérisoire. On s'en fout qu'un acteur fasse pas un film, ça ne m'en... Tout le monde s'en fout. Comme un metteur en scène, tout le monde s'en fout. Mais un acteur, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en plus de la représentation, et c'est totalement dérisoire. Mais en même temps, c'est héroïque parce que l'acteur, lui, il va travailler avec ses émotions. Il n'a pas un instrument de musique pour se planquer. Il n'y a pas de filtre, en fait, c'est lui. Ses larmes vont devenir nos larmes. Ses enthousiasmes, ce sont nos enthousiasmes. Ça, vraiment, ce qui le constitue fondamentalement en tant qu'être humain, c'est avec ça qu'il va faire, sans médium, sans le médium d'un instrument de musique, de la peinture, etc. Il est là à découvert.
En parlant de musique, justement, donc elle est composée par Vincent Delerme. Par contre, j'ai trouvé intéressant que vous preniez Cora Walker. Et en cherchant Cora Walker, donc c'est les trois petites notes de musique, j'ai constaté que, en fait, la musique de Delerue, elle était dans une aussi longue absence, le film de Colpi, et j'ai été voir la scène où Alida Valli danse avec George Wilson et qu'elle essaye de lui faire retrouver la mémoire. Et j'ai trouvé que finalement, votre film et la scène entre Alba et Guillaume était un bel hommage. Je ne sais pas si...
Non, c'est pas un hommage conscient. Mais par contre, trois petites notes de musique, je l'associe à mon temps, plus qu'à Cora Walker.
Ah, ouais.
Et en fait, Cora Walker a chanté cette chanson.
Oui.
Ah ouais, mais moi, j'associe.
Et donc, dans le film de 61, qui avait eu la palme à l'époque de Colpi, quoi. Donc,
mais le film, le titre, c'est...
Donc, une aussi longue absence.
D'accord. Et comment, moi, je l'associe à mon temps. En fait, quand on, parce qu'il l'a chanté, trois petites notes de musique. Et
c'est, alors, vous allez revoir la scène sur YouTube.
Oui, non, j'ai revoir. Ça m'intrigue.
Philippe a été assez interpellé.
Mais il ne danse pas sur cette chanson-là, par contre. Il danse sur, un autre morceau. Ouais. Mais effectivement, à un moment, c'était presque la chose la plus compliquée à trouver, cette chanson des trois petites notes de musique, parce qu'à un moment, quand elle est utilisée dans le film, il fallait pas qu'on lui donne un sens. Par rapport à ce que peut penser le personnage à ce moment-là, de sur sa vie, etc. Donc, c'est des chansons qui sont à la fois gaies et en même temps très mélancoliques.
Une autre référence aussi, c'est celle de Dan Poudoulek, donc 15e, etc. Et je me suis rendu compte que la couverture du Peuple Breton, le mensuel, qui était mettre un enfant métis en couverture, c'était quand même votre histoire aussi. Et je trouvais que la réalité retrouvait la fiction.
Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais entendu... Il y a longtemps, en fait, tout un débat dans un petit village qui, est-ce que c'était par rapport à Jeanne d'Arc ou je ne sais pas quoi, qui avait dû passer en 1400, je sais pas combien, elle avait dû traverser le village, et donc ce moment héroïque de la vie du village. Voilà, ils avaient fabriqué une fête autour de ça, et puis tout à coup le maire avait dit bon ben pour représenter, je crois que c'était Jeanne d'Arc, on va mettre une jeune fille noire. Donc là bon, levée de bouclier, Jeanne d'Arc n'était pas noire, etc. Et je trouvais ça en l'occurrence dans le film assez drôle et assez drôle et dérisoire, parce qu'en fait le dérisoire et le grotesque a quand même, surtout le mot dérisoire, a quand même guidé vachement toute et l'écriture des personnages et la mise en scène du film. Il y a quelque chose qui est constamment, qui trempe dans un bain de dérisoire. Mmh. Parce que, ce que je disais, c'est que l'acteur est héroïque et dérisoire par essence, et que nous, notre condition d'être humain, elle est héroïque et dérisoire. C'est-à-dire que c'était tellement héroïque de traverser la vie avec toutes les épreuves, toutes les questions qu'on va se poser, qu'on va nous poser, que la vie va nous poser, est tellement dérisoire à l'échelle du temps qui passe, que le fait d'être qu'il soit acteur représentait finalement cet état de notre humanité.
Ferme Grisin, encore merci. On rappelle, hors saison, le 27 mars. Merci.